France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Maurice Baquet n'a pas fait carrière. Artiste aux dons multiples, l'homme au violoncelle a vécu tout simplement sans se prendre au sérieux. On peut difficilement imaginer un parcours plus poétiquement éclectique. Violoncelliste de talent, à la solide formation classique, il a été membre de l'équipe de France de ski en 1937. Comédien, passé jeune homme par l'agitprop du groupe Octobre dans les années du Front Populaire, aux côtés des frères Prévert, de Mouloudji, Bussière et les autres, on le verra dans Le crime de Monsieur Lange de Renoir. On le retrouvera dans des dizaines de films, sur les scènes des théâtres et des cabarets, dans les opérettes de Francis Lopez et avec les branquignoles de Robert Derry. Grand sportif, un peu acrobate et volontiers casse-cou, il lui arriva de dévaler les escaliers de la Tour Eiffel sur des skis, mais aussi, en alpiniste émérite qu'il était, de réaliser avec Gaston Rebuffat la première ascension du Pic du Midi par la face sud. Multipliant les facéties sportives et musicales, ce natif du Beaujolais a traversé les époques avec une jovialité, un sourire et une joie de vivre burlesque que son grand ami Robert Doisneau a photographié pendant des années. Des usines en grève de 36 à la scène de Gaveau pour des clowneries avec Rostropovitch, Maurice Baquet aura été populaire de la plus élégante des manières, en n'oubliant jamais le conseil de son maître Gérard Ecking : tu vas certainement faire autre chose dans la vie, mais fais-moi plaisir, n'oublie pas ton violoncelle. En 1995, David Gis rendait visite à Maurice Baquet dans sa maison de Noisy-le-Grand pour Opus.
J'aimais bien, tu sais, quand on était tous prêts à se rhabiller, ben d'un seul coup, ça recommence le morceau. Ou sinon, à chaque fois, il se trompait parce qu'à chaque fois, il refaisait son morceau préféré.
Maurice Baquet ou le violoncelle par la face nord.
Ce qui m'a guidé dans la vie, c'est que peut-être que j'avais pas envie de trop souffrir dans n'importe quel métier.
À l'occasion des fêtes de Noël et des 84 ans de Maurice Baquet, nous voici ensemble pour presque une heure et demie à la découverte de ce musicien sportif, alpiniste et skieur, amuseur atypique, et nous le suivrons un peu partout en concert, au château de Mesnières, à Paris, au théâtre du Renard, mais j'ai voulu tout de suite le rencontrer chez lui, à Noisy-le-Grand.
J'habite là depuis 30 ans. Mon voisin, là, juste derrière, avenue de la Malnou, c'était Michel Simon.
Que vous connaissiez ?
Oui, bien sûr. J'avais tourné avec lui dans Monsieur Pipelet, où je faisais son neveu, qui était boxeur. J'en prenais plein à la poire. Voilà. C'était un village, oui. Du reste, voyez-vous, cette partie-là, elle est quand même restée. Il y a toujours de beaux arbres qui sont là. Les voisins sont toujours les mêmes. On a des quand même des bonnes relations avec les voisins. Ça fait quand même encore un petit village près de Paris.
Mais alors, que s'est-il passé avant que vous vous installiez ici ?
Quand j'ai quitté mon Beaujolais natal, donc à 17 ans, j'ai eu mon premier prix à Lyon de violoncelle à 17 ans. À 18 ans, je partais à Paris après être passé par Chamonix en tant que violoncelliste de la brasserie centrale. Je suis allé à Paris où j'avais envie de frapper à la porte d'un maître qui était Gérard Ecking, alors qu'il y en avait quand même d'autres maîtres du violoncelle à cette époque-là. Mais j'ai été attiré à mon insu... Enfin non, il doit y avoir quelque chose qui m'a dirigé intérieurement vers ce qui correspondait à mon idéal. Et l'idéal en violoncelle, c'était donc Gérard Ecking. Et lorsque j'ai été frappé à sa porte, c'est lui qui est venu m'ouvrir, me voyant avec mon violoncelle sous le bras, a dit, je vois bien ce que tu viens faire. Si tu veux me jouer un peu de violoncelle et sûrement rentrer dans ma classe conservatoire de Paris. Mais j'ai dit, mais oui, maître, légèrement bégayant certainement. Il m'a dit, bah tiens, enlève ta violoncelle et puis joue-moi quelque chose. Alors j'ai commencé à jouer. Je crois que j'avais eu mon prix l'année précédente avec un concerto de Klengel. Voilà, que je suis incapable de jouer maintenant. Je dis, mais je devais pas trop mal jouer à cette époque. Alors j'ai joué ça. Et puis Gérard Hecking est venu avec son violoncelle à côté de moi. On a joué un petit peu ensemble. Et puis il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'a appris ces doigtés-là? Comment fais-tu ce phrasé? Mais je dis, comme ça. Puis je lui dis, mais maître, il me semble que c'est que je fais la même chose que vous. Elle m'a dit, ah, pas bête. Et effectivement, j'ai des petites mains avec un bon gras du doigt, vous voyez. Peut-être que si j'avais été bien conseillé comme on fait maintenant, vous savez, maintenant on fait passer des tests et tout ça, sûrement on m'aurait dit, faites tout sauf de jouer du violoncelle. Bon, c'est ce que j'ai fait. Alors quand je vois des élèves, j'ai eu quelques élèves qui viennent avec des petits doigts bien ronds, j'ai dit, je connais ça, et moi je vais te mettre les doigtés qu'il te faudra pour ta main. J'ai pas les mains de mon ami Paul Tortelier, qui a des mains qui ont au moins 3 cm de plus que moi, alors je vais te faire les doigtés. Donc arrivé chez Hecking, il m'a dit, bah, ça me plaît, tu me plais bien. Écoute, tu vas pas être reçu cette année, parce que je n'ai qu'une place et je vois de qu'est-ce qui va prendre la place. Tâche de te débrouiller pour rester à Paris, et puis j'ai l'impression que tu auras tes chances l'année prochaine. Et il m'a dit, en tout cas en me raccompagnant à la porte, il m'a dit, en tout cas tu viens ici à la maison quand tu veux. Ça a bien répondu à ce que j'en attendais. J'en ai gardé toujours un souvenir merveilleux, puisque je joue encore des pièces qu'il a écrites pour violoncelle et je suis un des rares à les jouer.
Exemple, cette villageoise de Gérard Hecking, interprétée par Maurice Baquet. Thank you.
J'habitais rue des Artistes.
Ah ben c'était prédestiné.
Oui, rue des Artistes, chez deux dames qui étaient pianistes. Et puis je jouais dans les cinémas muets. J'étais donc violoncelliste dans le cinéma rue des Écoles, voilà, où j'ai accompagné des films célèbres, où des actrices m'ont tapé dans l'œil à ce moment-là, mais quand je me suis aperçu que j'étais Louise Brooks, ça m'avait fait quand même plaisir. J'ai donc accompagné, comment ça s'appelait, A Girl in Every Port, qui est un film merveilleux de Louise Brooks, et puis alors L'Atlantide, c'était Feder qui avait fait ce film avec Jean Gelot, Stassiana Pierskowska, et il y avait un moment très douloureux où le lieutenant Saint-David se traînait sur les coudes et était victime d'un mirage. Il croyait toujours qu'il y avait un puits, mais quand il arrivait, il n'y avait plus de puits, puis un beau coup, il y avait quand même un vrai puits. Alors, il se soulevait sur les coudes, plongeait la tête dans le puits, et alors, à ce moment-là, on levait l'archet pour ne pas faire de musique, car le sous-titre écrit forcément sur l'écran, il se retournait en gros plan, et au public, il disait « vide ». Et tout le public répétait ce mot, et nous, on enchaînait sur le morceau le plus tragique de notre répertoire.
Mais à cette époque-là, vous ne pensiez que musique, j'allais dire, sérieuse, même si vous jouiez dans les cinémas, vous pensiez faire votre carrière en tant que musicien.
Je sais pas, j'ai jamais eu ce mot carrière.
Vous n'y avez jamais.
C'est peut-être celui dont je ne me suis jamais préoccupé. Voilà, j'ai peut-être à tort. J'en sais rien. Enfin, c'est mon tempérament qui est comme ça. Je crois que d'avoir été doué pour le violoncelle, c'est-à-dire que en l'espace de 2 heures ou de 3 heures maximum, d'apprendre par cœur tous les morceaux et de les faire assez facilement, m'a donné la possibilité de beaucoup me promener. Voilà, c'est, je crois, ce que j'ai eu envie de faire, c'est de me promener dans les rues et de voir les gens et de jouer du violoncelle assez facilement. Mais d'une manière personnel, tant et si bien qu'on ne m'a jamais tellement pris au sérieux et que je ne me suis pas pris au sérieux pour autant.
De temps en temps, il se défend, très bien, vous savez que c'est une petite bête curieuse, donc, ça, il y a des jours où vous êtes bien, et des jours où vous n'êtes pas, et on s'en aperçoit au moment où on met l'archet. On dit, ah ben tiens, aujourd'hui il va m'aider.
Qu'est-ce que vous voulez dire en disant ça? C'est-à-dire.
C'est des fois où ça grince. Bon, sûrement il y a une cause. Que l'archet n'est pas tout à fait bien placé tout ça, mais il y a des fois où tout réussit, puis il y a des fois où ça réussit moins bien. Alors je dis, tiens, oh là là, ça grince. Oh, il n'a pas été gentil avec moi aujourd'hui. Enfin.
La force de l'instrument.
Alors, puis là, vous voyez, avec la température et puis cette touche, donc en ébène, alors la distance entre la touche et la corde, suivant la température,
ça, un peu, oui.
Ça change. Du reste, quand on fait une grande tournée, il faut au moins avoir 2 chevalets différents, même 3, qu'on en casserait.
Ah oui, pour rehausser légèrement.
Voilà, ou ouais. Rehausser ou tout ça. Mm-hmm. Voilà. Parce que sinon, vous voyez, la corde d'acier rentre petit à petit, je la laisse, parce que comme il est un peu haut, alors je le laisse un petit peu. Ensuite, je mettrai une petite peau de tambour, peut-être pour arrêter
l'incision.
L'incision de la corde dans le chevalet.
Vous avez un luthier favori?
Celui qui m'a fait le violon.
Celui qui a fait le violon.
Million.
Million.
Voilà. Je suis très ami avec Étienne Batelot aussi.
Oui, je sais.
Mais dès que je suis arrivé à Paris, il y a très longtemps, c'est les Millions. Je suis toujours resté fidèle. Alors, c'est les pères, il y a Bernard Million, le fils qui a continué, et maintenant il a rendu le magasin. Et je tourne, j'ai rendu
le. Ça, c'est un mot.
Un petit, oui.
Un mot plus chez vous.
Voilà, un petit.
Thank you.
quand je suis parti à Paris, violoncelle sous le bras, bon, ma mère était forcément triste, et mon père... dans le fond, j'ai dû représenter un petit peu dans tout ce que j'ai vécu après mon départ de Villefranche. C'est un petit peu peut-être ce que mon père souhaitait avoir fait ou faire. Enfin, je crois que ça a été un petit peu le rêve caché de mon père que j'ai représenté. Parce qu'il était musicien amateur, jouait du reste pas mal. Et c'est du reste ainsi qu'il avait séduit ma mère. Il était trombone solo de l'harmonie du Beaujolais. Ma mère était la fille du receveur des postes. Il y avait en dessous la recette des postes, un kiosque à musique sur lequel mon père, de son prénom Léopold, comme Mozart, jouait du trombone à coulisses et un morceau qui s'appelle « Le défi ». Qu'il jouait en solo, sûrement à la coulisse du trombone dirigée vers le balcon, puisque je n'étais pas encore là. Je suis né quelques années plus tard. Donc, mon père avait appris beaucoup de choses. Tout cela était d'un milieu pauvre, mais il a toujours été tenté par la musique, qui, selon lui, c'est vraiment une chose avec laquelle on pouvait se balader dans le monde.
Et vous, vous réalisiez, et vous en avez parlé avec lui, vous réalisiez son rêve
oui,
caché.
Je n'en ai jamais parlé, vous savez que les rapports entre les parents et les enfants, mais de ça c'est des trucs quand même un peu secrets, parce que peut-être bien j'en aurais parlé à mon père, peut-être qu'il s'en serait défendu, il aurait dit « mais non, mon petit mot, mais non, peut-être... enfin j'en sais ».
C'était un bonhomme de neige qui n'avait jamais navigué, qui voulait faire son rêve, voir la Méditerranée. Il était prisonnier des glaces, mais un coup de soleil fugace, en un beau matin, le fit glisser. Il fit carre de cabriolet, et au bout de sa course folle, il arriva. Il regarde droite à gauche, entendit un bruit de galoche et vit venir une écolière de sourire qui ne tarda pas à lui dire Madame de Neige, dans la tête.
Pour la mer Méditerranée,
belle croix que je l'ai passée, je suis perdu, je suis foutu, du rhum du tout. Alors elle dormit sous son aile et bientôt elle le ramena chez elle. La fille est belle, mais ça ne vaut pas la mer Méditerranée. Elle alla lui chercher du bois et alluma un grand feu dans la cheminée. Ils se mirent à rêver, main dans la main, et contre nez, contre jaune, dans les yeux. Et ses tendres vont enlacer qu'il aperçoit sur la cheminée.
Quoi donc ?
Un coquillage où il entend le bruit de la mer. Et à la chaleur de ses flammes, le bonhomme de neige rendit l'âme. Quelle alarme, quelle alarme! Une flaque d'eau en forme de cœur fut tout ce qui resta du bonheur de cette idylle. Si le moral de mon histoire risque de vous sembler bien noir, vous en faites pas, ça s'arrangera, le bonheur est là, suivez mon cas. Les flaques d'eau font les petits ruisseaux, les ruisseaux font les grandes rivières, lesquelles se jettent.
Et où ça?
Dans la mer, Méditerranée.
C'était un bonhomme de neige qui n'avait jamais navigué.
Qui voulait, c'était son rêve. Voir la mer, méditer. Ah, bon, 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 bon.
Bon, j'ai 5 enfants. Ma fille Anne, donc j'ai une fille qui s'appelle Sophie, d'un premier mariage, qui joue les opérettes, qui n'est donc pas présente dans ce petit quatuor. Mais Anne a 3 frères, et elle a fait ses études en Russie, donc anciennement Leningrad, maintenant Pétersbourg. Et quand elle est revenue, donc elle a chanté tous ses chants orthodoxes, dont ses frères connaissaient déjà l'existence, puisqu'ils allaient chanter dans les chorales orthodoxes. Et petit à petit, il y a eu une ou deux chansons. J'ai dit, bah tiens, ça serait bien si vous veniez avec moi. Et effectivement, moi, ça me plaît beaucoup qu'ils viennent chanter une chanson que j'ai écrite pour leur sœur aînée. C'est l'histoire du bonhomme de neige qui veut voir la mer Méditerranée. Voilà. Bon, ils chantent juste. Ils ont une bonne qualité sur scène. Il y en a effectivement deux, Anne et Grégory, qui ont une belle assurance sur scène. Il faut se sentir bien sur scène, de pas quand même trop souffrir.
C'était un bonhomme de neige qui n'avait jamais navigué. Qui voulait, c'était son rêve, voir la mer Méditerranée. Il était prisonnier des glaces, mais un coup de soleil fugace, un beau matin, le fit glisser. Il fit 40 cabrioles, et au bout de sa course folle, il arriva, comme dans un livre d'images, au milieu d'un joli village. Quel paysage! Mais sans y voir la mer Méditerranée.
Une des enfants de la tribu Baquet, Anne, chanteuse, à qui j'ai demandé s'ils étaient tous là.
Tous, il en manque une, mais bon, elle n'habite pas Paris, donc c'est un petit peu... Mais sinon, les quatre, nous étions présents, et oui, comme à chaque fois, souvent d'ailleurs, quand papa a besoin... Enfin, on n'a pas besoin, mais quand il fait son spectacle, on participe de temps en temps.
Voilà. Mais ils sont tous dans la musique, ou vous êtes la seule?
Je suis, à vrai dire, la seule, puisque je chante, mais sinon, on a tous eu, évidemment, une formation musicale grâce à papa. Et puis voilà, quoi. Donc c'est toujours amusant de se retrouver.
Alors, vous chantez, vous êtes d'une autre génération. Est-ce qu'on juge le travail de son père? Comment ça fonctionne?
Oh non, pas du tout. On est toujours baba devant, parce que c'est vrai que c'est toujours extraordinaire. Et à chaque fois, on est comme la première fois pratiquement, parce qu'on découvre toujours des trucs. Et c'est évident que de temps en temps, bon, on a tellement l'habitude, on connaît tellement bien les choses, que c'est vrai qu'on a un œil, une oreille plutôt affûtée, oui.
C'est tendrement enlacé qu'il aperçoit sur leur cheminée. Mais quoi donc? Un coquillage où il entend le bruit de la mer Méditerranée. Mais à la chaleur de ses flammes, le bonhomme de neige rendit l'âme. Quelle alarme, que de larmes! Une flaque d'eau en forme de cœur fout tout ce qui resta du bonheur de cet idylle. Si la morale de mon histoire risque de vous sembler bien noire, vous en faites pas, ça s'arrangera. Le bonheur est là, suivez mon regard. Les flaques d'eau font les petits ruisseaux, les ruisseaux font les grandes rivières, lesquelles se jettent. Mais dans la mer Méditerranée. C'était un bonhomme de neige qui n'avait jamais navigué. Qui voulait, c'était son rêve, voir la mer Méditerranée. Bah oui, il voulait voir la mer Méditerranée. Et il voulait voir la mer Méditerranée. La mer Méditerranée. Méditerranée. Et il voulait voir la mer Méditerranée.
De mon arrivée à Paris, après la rue des artistes, je suis allé habiter à Malakoff avec un copain suisse que j'avais connu à l'école des Beaux-Arts à Lyon. Moi, j'étais au conservatoire, mais je m'étais lié avec une famille suisse. Et il avait obtenu le prix de la ville de Lyon, et le prix de la ville de Paris, décerné à la ville de Lyon. Et il avait, pendant un ou deux ans, pas hérité, mais on lui donnait un pavillon à Malakoff, et que j'avais partagé, que je partageais avec lui, à un moment de ma rentrée au conservatoire. Or, il était très sportif, et c'était l'époque où on allait au bain de Ligny, hein, voilà, et on y a rencontré, là, assez facilement, des charmantes jeunes dames, dont Jeannine, qui est devenue ensuite la femme de Jacques Prévert, qui s'est mariée à ce moment-là avec Loris, Fabien Loris, que l'on voit donc dans les Enfants du Paradis. Et il y avait aussi Pierre Boucher, qui était un photographe de l'Alliance Photo. Donc il y avait un petit groupe de canoéistes, nageurs, campeurs. Et je crois que ce n'est pas l'intermédiaire de Loris que la jonction avec les Prévert s'est un petit peu faite. Voilà. Et tant et si bien que... Alors à ce moment-là, j'habitais rue des Feuillantines. C'était donc fin 33, ce fameux groupe Octobre dont il a été beaucoup parlé par la suite, des membres éminents, donc Yves Allégret et Marcel Duhamel, donc le futur patron de la Série Noire. Et c'est en lisant, je crois peut-être Dîner de tête, je ne sais pas où, des textes, que Raymond Bussière avait... dit à Paul Vaillant-Couturier et à Léon Moussinac, qui cherchait un auteur pour des groupes de théâtre ouvrier, tiens, il y a celui dont je viens de lire un truc qui s'appelle Jacques Prévert, on va aller le voir. Ils sont allés le voir et Jacques a commencé à écrire pour le groupe.
Alors justement là, on est dans une période importante, vous parlez de théâtre ouvrier, il y avait aussi lié à tout cela un engagement politique important, c'est-à-dire que c'était à la fois être artiste, mais c'était aussi militer et intervenir. Quelle était votre opinion à l'époque ?
Notre, vous savez, enfin on dit toujours on a le cœur à gauche, enfin je sais pas si ça vient de la famille qu'on a, mon père avait beaucoup travaillé pour s'en sortir, donc il y avait toujours un petit côté vaguement lointain d'antimilitarisme, d'anticlérical, enfin, mais qui s'exprimait pas d'une façon violente. Enfin on était comme ça et on trouvait dans le départ de ce qu'a été le Front populaire, de justes revendications, si vous voulez. Du reste, on a cru, enfin moi, on a cru qu'on allait vivre longtemps heureux. Rémi Fossol, tegadam, tegadam, pim, bogadam, pare, pararurirudan, tegadam, Rémi Fossol, tegadam, tegadam, pim, bogadam, pararurirudan, tegadam, Rémi Fossol, tegadam, tegadam, pim, bogadam, pare, pararurirudan, tegadam, Rémi Fossol, tegadam, tegadam, pim, bogadam, pare, pararurirudan, tegadam. Ré mi fa sol, 2-3, 2-3. On a cru qu'on allait vivre longtemps heureux. Ça a été une période de mouvement ouvrier. Bon, il y a eu quand même des grosses manifestations, il y a eu des morts. C'était des luttes pas fraternelles, parce que c'était entre les camelots du roi, les jeunesses patriotes et les milieux de gauche. Il y avait quand même des rencontres qui étaient solides, à coups de poing, musclés. Mais on n'en voyait pas le côté si dramatique que maintenant. Peut-être les nouvelles arrivaient moins vite, quand même. Hein. Et je crois que c'est cette impression de bonheur dont on peut marquer les années entre 34 et 36, tout en ne négligeant pas les choses importantes qu'on apprenait petit à petit, quand même. Parce que le dénommé Hitler commençait à faire quand même des tas de choses dont on n'était pas au courant de tout, hein, faut pas croire. Et même pendant la guerre, moi j'ai fait donc la guerre 39-40, j'étais quand même simple troufion quand j'ai appris en marchant le pacte germano-soviétique. Ça fait quand même un choc. On est bon. Donc à cette période-là, On était plus, je ne sais pas si le mot anarchiste va faire frémir des gens, de 12 anarchistes, c'est-à-dire que on n'a jamais appartenu à aucun parti, si vous voulez.
Même si vous saviez quand même qu'il y avait certains membres du groupe Octobre qui étaient très près du Parti communiste ou faisant partie du Parti communiste.
Hein. Oui, mais il y avait une scission qui s'était faite assez rapidement. Lorsque moi j'ai connu le groupe qui revenait de Moscou, il y a eu des Olympiades théâtrales, donc des groupes qui sont allés à Moscou et avec des troupes allemandes. Ils ont pris le passage, les troupes allemandes sur le bateau, ils sont arrivés donc à Leningrad. Et puis il y a eu le festival. Et le groupe avait vraiment déchaîné l'enthousiasme par le côté farfelu, machin, vraiment. C'était la comédia dell'arte un peu politique, mais parce qu'on mettait en présence des généraux gâteux, des présidents de la République, Poincaré, les marchands de canons, enfin tout ça. Et le groupe avait eu le premier prix décerné par le jury, mais 5 minutes plus tard, un membre officiel du parti avait dit « Mais le premier prix ne sera pas décerné cette année ». Mais on avait eu le premier prix sans avoir le premier prix. Et au moment de reprendre le bateau, il y a eu donc un émissaire qui est venu pour faire signer une déclaration à Jacques Prévert et aux membres du groupe en disant pour signer un manifeste comme quoi on était content des réalisations du camarade Staline. Voilà. Donc ce qu'ils n'ont pas signé, il y a eu une petite scission. Très nette. Du reste, Jacques, quand il disait vous avez jamais fait partie du Parti communiste, il dit non. J'aime pas le mot cellule. Ce groupe était fait de gens venant d'horizons très différents. Il y avait quand même, le fond était venant du mouvement surréaliste, façon Jacques Prévert, si vous voulez, qui s'était donc déjà désolidarisé du groupe breton, si vous voulez. Donc il y a eu la rue du Château qui a été le creuset d'un mouvement très drôle, dont s'est échappé Jacques et qui a trouvé, je crois, avec tous les membres du groupe Octobre, une façon d'écrire, et il écrivait facilement, là, et on apprenait les textes rapidement, et les sketchs contre Hitler, contre Citroën, tout ça, on apprenait ça en une demi-heure, on arrivait dans les rues, on faisait ça, souvent on fuyait, poursuivi par deux ou trois flics à vélo avec des grandes pèlerines, je me souviens, on fuyait devant les vélos et les pèlerines. Enfin,
bon, mais c'était vraiment du théâtre de rue, enfin.
Oui,
de...
oui. On donnait rendez-vous, là, et puis voilà.
Alors, bon, donc toute cette période d'activité, vie, apprentissage aussi d'une vie professionnelle qui soit pas tout à fait le violoncelle seul, mais dans un contexte théâtral, dans un contexte d'histoire, dans un contexte qui va être toute la suite de votre carrière. Ça vous a donné envie à ce moment-là?
Non seulement, oui, envie de faire les choses pour lesquelles j'étais fait, si vous voulez. Il y a un petit côté arlequin ou guignol ou niafron, enfin, qui est en moi. Et la présence, on va revenir au violoncelle, puisque depuis le départ, j'avais ce violoncelle quand même à la main. Et beaucoup de gens souriaient ou riaient de me voir avec ce violoncelle. Donc, je n'ai pas... Et j'ai toujours gardé, je pense, une espèce d'ingénuité en faisant ça, au lieu de me dire, tiens, je vais devenir un clown ou... voilà.
Un gagman avec le violoncelle, pas du tout. Ça s'est fait naturellement de votre relation à l'instrument.
Oui,
ça a conditionné ce que vous allez faire.
Sûrement, et la question qui restera toujours sans réponse, c'est si j'avais joué d'un autre instrument, qu'est-ce qui se serait passé au point de vue musique? Voilà. Mais la présence de ce violoncelle... est un élément quoi primordial dans la vie quoi.
Pour grimper d'ici.
Voilà. La demande est formidable. Et que disait le compositeur qui sortant de chez lui, qui buvait beaucoup de whisky, qui tape sur sa bouteille de whisky, quand il rentre, il dit, tiens, c'est drôle, en partant ma bouteille faisant un la, maintenant ça fait un fa dièse, on m'a bu une tierce mineure. La guerre, ça m'a semblé tellement surréalisant, parce que en 39, j'étais enrégimenté dans un régiment d'infanterie alpine. On a commencé par me donner un grand béret et un alpenstock. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un alpenstock. C'est une grande canne, un grand bâton qui fait 2 mètres de haut. C'est avec ça que je suis parti faire la guerre. Alors je me disais, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors, on a pris le train et au lieu d'aller dans les Alpes, on s'est retrouvé en Lorraine, où je me suis retrouvé aux avant-postes. Alors, il y a eu l'événement de la première nuit où on m'avait mis dans une casemate et on m'a dit, ouvrez l'œil, et bon, hein, parce que... Hein, et donc, j'ai entendu un remue-ménage dans le lointain, et quand on est venu me relever le lendemain matin, on m'a dit, vous n'avez rien à signaler. Je dis, si, parce que les Allemands, ils disent, non. Là, il m'a dit, mais vous avez regardé de quel côté? Je dis, là. Il m'a dit, là, c'était les Français, les Allemands, ils sont derrière. mai 40. Alors arrivant de Namur en Belgique crottée et tout ça, je suis arrivé sur la plage de Royan où j'ai dormi avec ma capote toute pleine de boue, au casque et tout ça. Et un officier aviateur qui voulait m'attirer avec lui en Afrique du Nord, mais j'avais un petit rendez-vous avec les Prévert dans un autre endroit. Je lui ai dit, ben non, je ne pars pas. Il dit, mais je laisse une motocyclette. Là, alors, vous la trouverez à minuit au coin du quai du Midi et quai du Nord. Ce que j'ai trouvé, j'arrivais pas à mettre cette moto en route. Alors, c'était mon seul moyen de locomotion. Il n'y avait plus de train, il n'y avait plus rien. Et au petit matin, je rencontre Picasso dans une rue de Royan. C'est pas confondu, vous voyez, avec les aventures. Il me dit, que fais-tu là? Ben, je dis, voilà, j'ai une moto que j'arrive pas à mettre en route, que j'ai laissée là-bas. Il me dit, quelle marque? J'ai dit, une Mania de Bon. Il m'a dit, il y a de l'essence? J'ai dit, oui, en secouant la moto, j'entends bien qu'il y a de l'essence. Il m'a dit, et l'essence arrive pas au carburateur? Je dis, non, mais il doit y avoir, peut-être y avoir un petit bouton d'essence sous le réservoir.
Il s'y connaissait en moto, Picasso?
Et je le quitte. Je l'ai quitté, retrouvé ma moto. Effectivement, il y avait un petit machin, la moto part, et j'ai traversé entre les armées françaises qui fuyaient et les armées allemandes qui venaient, dans une zone vraiment interdite aux piétons, mais où il y avait un motocycliste, un Zouave, c'était moi, et j'ai fait Royan, à côté de Brive, chez Renaud de Jouvenel, où on avait rendez-vous avec Jacques Prévert, Pierre Brasseur, Odette Joyeux, voilà, Marcel Duhamel. Allez, la réunion était bonne. Alors 15 ans, si je raconte cette petite histoire, c'est parce que 15 ans plus tard, avec Jacques Prévert, qui habitait Antibes, il dit, bah, tiens, on va aller dire bonjour à Picasso, qui est sur la plage à Cannes. Et je peux pas dire que j'étais pas un Antibes, enfin voilà. Mais en me voyant de loin, comme sortant de nuages, il avait plu, je me souviens, il y avait du brouillard, et avec son œil magique et cette tenue merveilleuse, hein, en me voyant, il m'a dit, alors, t'as réussi à la mettre en route, cette moto? À partir de septembre 40, donc avec Pierre Brasseur, des Joyeux, Marcel Duhamel, Pierre Prévert et moi, notre hôte a commencé à dire « ça serait peut-être bien si vous reviendriez, tu vas travailler ». Et on a monté cette comédie d'Achard qui s'appelait « Domino » à 5 personnes et ça a été éblouissant. Vous voyez, on est même parti en tournée avant Jean Nohain. C'est vous dire qu'on était des précurseurs, parce qu'on a appris par la suite que les tournées s'étaient bousculées vu le succès de notre tournée. On a joué, on mettait les affiches le matin et les horaires de chemin de fer étaient inexistants. On jouait dans les théâtres, on avait vaguement une chambre qu'on prenait en face de la gare. On allait attendre le premier train, alors on faisait Brive, Périgueux, machin. Toutes les villes ont été jusqu'à Marseille où on a fêté la 100e. Hein. Et là, la chance encore est dedans. Au moment de Noël, donc on était parti en septembre et en décembre, on se trouvait à Marseille, au gymnase. Au gymnase, où il y a eu l'incident suivant, avec Pierre, qui était d'une tenue exemplaire jusqu'à ce moment-là, et il y avait eu un jour de relâche, et le jour où on devait débuter au gymnase, c'était le gymnase à Marseille, à 7h30, pas de Pierre, 8h, pas de Pierre, 8h30, pas de Pierre, à 8h32, un taxi arrivant de Cannes, on savait qu'il était à Cannes, et on voit Pierre s'engouffrer dans le théâtre. On ne lui voyait qu'un œil. Il avait pris un coup de poing dans l'œil. Et vraiment, c'était Cyclope. Il était là. Mais Pierre, sérieux, a-t-il dit. Je joue tout du même côté. Je rentre de côté, je ressors de l'autre. Je fais le tour derrière les rideaux ici, là. Alors, effectivement, il jouait toute la pièce d'un côté. Et on jouait 8 jours. Sauf un jour où il a oublié. Subitement, il se retourne. Et tout le public a fait. Oh! Il s'est redétourné. Mais on avait eu des critiques formidables. Avec cette mise en scène moderne où les acteurs rentrent de côté, sortent de l'autre. Il est vrai que cette tournée était aussi dans le genre surréalisant en diable. Parce que le deuxième acte, ça se passait dans la chambre de l'héroïne, Laurette, qui était donc Odette Joyeux, et dans un théâtre qui était à Pézenas. Alors on s'est dit, le théâtre de Molière, ça va être formidable de voir ça. Et au théâtre de Molière, il n'y avait qu'un seul décor, c'était une place publique. Et le lit de l'héroïne s'est trouvé à Pézenas, dans la place. Oui. Et moi, je suis resté dans le Midi avec Marcel Duhamel jusqu'en 43, où Louis Daquin, qui faisait le film Premier de Cordée, on avait appris qu'il faisait le film Premier de Cordée, où on est allé tous se planquer à Chamonix, été et automne 43. Et lorsqu'on est venu faire le studio à Paris, parce qu'il y avait quand même une circulation de cinéma à cette époque-là, fin 43, j'ai retrouvé Gilles Margaritis, qui m'a dit, tu sais quand même, ça va bien changer. J'aurais des musicals. Alors quand il y a eu... quand il y a eu donc les armées françaises sont arrivées à Paris, Gilles Margaritis a eu l'Olympia. Et c'est là d'où datent les prémices et le début de mon apparition sur scène avec un violoncelle. C'est parce que, aussi un tout petit peu avant, il faut vous dire qu'avec le groupe Octobre, le grand spectacle que nous avions fait à la Mutualité en 1936, comportait un numéro de machiniste que je faisais avec Gilles Margaritis. Donc j'avais des liens avec Gilles, avec lequel on s'entendait très bien, quand il m'a dit, tu sais, bon, voilà. Alors, quand il y a eu le premier spectacle, oui, la guerre n'était pas finie, c'était septembre 44,
oui, c'est ça.
Hein, il y a eu le premier spectacle pour les amies américaines, et il y a eu donc une partie faite par Fred Astaire, l'orchestre Glenn Miller, Freddie Shaw, Dinah Shaw, il y avait les Ritz Brothers, il y a eu tout ça, et quelques artistes français,
dont Maurice Baquet au violoncelle.
Voilà.
Et là, il y avait déjà la préfiguration ou la figuration de ce numéro avec le violoncelle.
Voilà, parce qu'il m'a dit, tu me fais quelque chose avec le violoncelle. J'ai pensé à ce rondeau de Boccherini qui avait déjà fait sourire dans l'école de... surtout à la classe de musique de chambre à Paris, sous la direction du Bert Max Dolode, et qui, quand il y avait des inspecteurs célèbres comme Paul Ducas, Vincent Dindy, terminaient toujours la classe en disant, bien, nous allons vous jouer un petit morceau, etc. Et on jouait, et tout le monde partait en souriant, tant et si bien que quand Gilles m'a dit, tiens, j'aimerais bien que tu me fasses un numéro de violoncelle, j'ai pensé à ce rondeau de Boccherini.
Ça commence à se savoir, et bien sûr au centre de la vie de Maurice Baquet. Et pas n'importe quelle montagne, mais essentiellement cette vallée qui commence au viaduc Sainte-Marie, se termine à la gare de Montroc-le-Plané, en passant par l'Étine, je veux dire la vallée de Chamonix, avec ses héros, Jacques Balma, Ravanel et Memoy, Lionel Terré, et puis bien sûr Gaston Rebuffat, l'ami de toujours de Maurice Baquet.
Gaston était d'une telle solidité, d'une telle assurance, et l'union était si parfaite. Enfin, je dis toujours, c'était un petit peu Don Quichotte et Sancho Panza. Mais c'est avec Gaston que on a joué un petit peu à la vie, à la mort, si vous voulez. Hein, bon, et la vie m'est restée quand même grâce à Gaston, et tous les beaux sommets, toutes les belles voix que j'ai pu faire avec lui. Dans les belles faces, resteront quand même des grands souvenirs d'une vie extra-musicale. Je n'ai jamais été aussi fier lorsque, de temps en temps, il me disait, tiens, aide-moi à monter, enfin, si tu veux pas aide-moi, mais tiens, mets-moi, je vais faire une courte échelle sur tes épaules, parce qu'il savait que j'avais les épaules solides. Jamais je n'étais aussi fier que lorsque je tenais Gaston, moi, je voyais Gaston descendre devant moi. Ah, c'est bon, alors, je suis heureux, voilà. Il y a cette fameuse phrase que je m'étais faite lorsque j'attendais sous le surplomb de l'Aiguille du Midi, dont on a fait la face sud, dont on allait faire la première avec Gaston quelques jours plus tard. Gaston m'avait donc abandonné sous le surplomb pour aller voir ce qui se passait au soleil dans la face. Et sous ce surplomb dans l'ombre, j'étais resté quand même 4 ou 5 heures le pied dans un étrier. Et alors, je chantonnais comme ça, et je m'étais trouvé une phrase que je me répétais assez souvent. Je disais, il faut être à son aise partout. Il faut être à son aise partout. Voilà. C'est comme ça que j'ai préparé la première de la face sud de l'Aiguille du Midi.
Thank you. Allez, oh, oh, moi j'adore cette musique. Ah non, ça. Ah oui.
Moi, je pense toujours qu'il y a toujours un éternel recommencement. La Terre est ronde, nous sommes sur cette Terre qui tourne, les gens ne s'en aperçoivent pas toujours assez, ils devraient bien se rendre compte que nous sommes vraiment, on vit une vie surréaliste sans diable, si on est sur un gros truc qui tourne, dont on ne peut pas expliquer la provenance et tout ça, pourquoi sommes-nous là? Enfin bref, c'est les grandes questions qu'on peut se poser. Donc, tant qu'on est là, c'est... Je me sens à mon aise encore maintenant. Quand j'en aurai plus la force et ni la passion, je tirerai le rideau.
Des oreilles, écoutez bien, oui. Vous voyez bien, c'est ces deux gaillards. Au jardin des plantes, oui. Au jardin des plantes, ainsi nommé à cause des animaux qu'on y a rassemblés. Enfin, vous voyez le genre. Je dois vous dire que même en Suisse, ils comprennent. Alors je recommence. Au jardin des plantes, ainsi nommé à cause des animaux qu'on y a rassemblés, au jardin des plantes, une étrange ardeur semble la régner.
Quoi ?
Semble régner, là. On décore, on festonne, on visse, on cloue, on plante. Le castor construit des tréteaux, la grue porte des fardeaux. Le piton accroche les tableaux, car ce soir au jardin des plantes, c'est la grande fête éblouissante, le carnaval des animaux. Tout est prêt, la foule se masse, l'orchestre à pas de loup discrètement se place. L'éléphant prend sa trompe, le cerf le corps de chasse, et voici que soudain monte dans le silence, pour le grand plaisir de nos cinq sens. La musique de Monsieur Saint-Saëns. Le lion. Bien mal assis, ne profite jamais. Chez Pâté Journal. Tortue. carnaval une fois l'an. Les tortues dansent le cancan, et sous leur monture d'écailles, elles transpirent, elles travaillent, elles se hâtent avec lenteur. Aussi, quand vous verrez, spectateur, danser ce galop d'Offenbach, au rythme de Sébastien Bach, vous comprendrez qu'il ne faut pas jouer avec son embonpoint, et qu'il vaut mieux courir que de partir à point. Cambridge ou d'Eton. Les éléphants sont des enfants qui se trompent énormément. Au carnaval des animaux, l'âne s'est mis un bonnet d'homme. Fossile. Sortis tous spécialement de leur muséum, voici messieurs les fossiles. Les iguanodons, les mégatherions, ptérodactyles, ichthyosaures, dinosaures, brontosaures, nabucodonosaures et autres trésors des temps révolus qui sont sortis pour prendre l'air quaternaire, bien entendu. Ceux des larves vont danser sur la danse macabre de Saint-Saëns. Ne tirez pas sur le pianiste. C'est fini, la fête se déchaîne, les animaux rient et les chaînes en dents, on se fraternise, le loup avec l'agneau, le renard avec le corbeau, et le manche avec la cognée, et le pou avec l'araignée. Regardez comme c'est joyeux, comme c'est beau, le carnaval des agneaux. Et puis, quand la nuit se fera plus claire, et que la musique aura décidé de se taire, les animaux, quand la nuit est plus claire, la musique se tait. Quand la musique aura décidé de se taire, les animaux. Merci. Les animaux iront faire la queue aux bestiaires. Et de nouveau, on se craindra le chien, le chat, le lion, le rat, etc. Car les bêtes ne sont pas les plus bêtes, en somme.
Et si vous en doutez un brin, rendez-vous dimanche prochain au Carnaval des Hommes. Et puis s'il faut bien mettre de ce carnaval le point final, je vais planter les clous finaux au Carnaval des Animaux.
Après Maurice Baquet et Christopher Beckett jouant Saint-Saëns, j'ai retrouvé quelques spectateurs sur le trottoir du Théâtre du Renard à qui j'ai demandé leur avis sur cet artiste.
C'est difficile de dire, c'est cure de jouvence, quoi.
Mais pourtant, vous n'êtes pas très vieux.
Non, mais de voir qu'on peut faire ce qu'on veut jusqu'au bout, quoi, sans limite, et se présenter sur scène et emballer les gens, quoi. Tout simple. C'est pas vieux style, c'est plusieurs époques en plus, donc...
Ouais, mais nous on a été nourris au Tex Avery, c'est pareil là, c'est comme se faire une bonne volée de Tex Avery sur la 3. C'est comme les Tex Avery de Brion, bah c'est pareil. C'est aussi drôle et aussi tendre.
Plein d'humour et s'accroche bien avec toutes les tranches d'âge, je pense.
Formidable.
Qu'est-ce qui vous touche le plus ?
Oh, sa sincérité, son authenticité, hein. Et c'est vraiment très agréable hein, comme spectacle.
Tout au début, quand il faisait du ski en montagne, c'était fantastique. Il a toujours le même enthousiasme et la même jeunesse d'esprit.
Franchement, c'est du Maurice Baquet. Sans problème, hein. Franchement, il a pas changé malgré les années. C'est toujours le grand artiste qu'on a connu.
Moi, je connaissais Maurice Baquet pour en avoir entendu parler par ma mère, parce que il a une éternelle jeunesse et qui a été appréciée et applaudie ce soir. Parce
qu'on voudrait... C'est ça qui est formidable, ça a traversé les générations.
Absolument, oui, parce que je crois qu'on se disait justement qu'on regrettait de ne pas avoir amené nos enfants, parce que je crois que ça les aurait amusés, parce qu'il a un comique simple, vivant, naturel, et puis ça marche, quoi, ça marche toujours.
Maurice Baquet est extraordinaire, et ses enfants aussi. Hein. Et puis la fille est absolument extraordinaire. N'en dites rien, papa.
J'ai trouvé avec l'opérette et des directeurs comme Henri Monjoie et Marcel Lamy au Châtelet, ils m'ont ouvert les portes vraiment à tout ce que j'avais envie de faire, les glissades dans les escaliers, tout ça. Puis ça s'est donc, vous savez quand on
ça jouait... s'est arrêté, vous avez eu envie d'arrêter?
Oui, j'ai eu envie d'arrêter. Ça c'est en 77, j'ai arrêté. Ça a été ça a été la fin du Châtelet, voilà. Et puis la chance, je rencontre Ionesco. Et je joue les contes de Eugène Ionesco. Alors, tant et si bien que c'était amusant, parce qu'une fois, des journalistes avaient demandé à Francis Lopez, tiens, on ne voit plus Baquet dans vos opérettes. Il avait répondu très joliment, il m'a quitté pour Eugène Ionesco. Je trouvais ça tellement charmant, c'était tellement épatant.
Dans la vie, faut agir vite et simplement. Moi, je fais tout comme ça, d'un coup. Oh les fois que l'on hésite, on perd du temps. Moi, je vais droit au but, d'un coup. Ah, j'ai autant d'aplomb qu'un grand d'Espagne.
Hop là.
C'est ainsi qu'à tous les coups je gagne.
Hop là.
Ça va.
Ça va.
Bravo, bravi, brava. Quand mon cœur s'éprend, moi je déclare ça comme ça. D'un coup, pan.
Y en a qui sont
trop chou, mais moi pas du tout.
Tu
trop flou, mais moi pas du tout.
Tous les atouts,
mais moi pas du tout.
Tu m'as pris.
Y en a d'autres qui craignent les coups, mais moi pas du tout.
Et
le
surtout,
loup, mais moi pas du tout. Je suis pas fou, dit du du du. Malgré mon poids, malgré ma taille, je n'ai pas peur de la bataille. Et pour me voir faiblir, on peut toujours courir. Ma loi, c'est de vaincre ou mourir. Mon amour, je n'aime pas les boniments. J'attaque sans tarder, d'un coup. Pan ! Quand une femme s'aperçoit de mes sentiments, elle tombe dans mes bras, d'un coup. Pan ! Je suis comme un taureau dans l'arène.
Allez !
Les choses avec moi, faut pas que ça traîne.
Roulez !
Ça te plaît ?
Ça me plaît !
Et vous, voilà, ça y est !
Pendant un an, c'est resté comme ça, un petit peu le statu quo. Et puis, au bout de deux ans, on est venu me demander des nouvelles de mon violoncelle. On m'a dit, alors, comment va votre violoncelle ? Et ça m'a frappé, charmé, j'ai dit, bah tiens, mon passage en l'opérette qui était quand même conséquent, puisque hein, pendant 30 ans, sauf les deux ans que j'ai passé en Amérique avec Robert Derry, j'ai glissé, j'ai suspendu au rideau, machin, fait des farces, enfin je me suis donné à cœur. Là j'ai appris un très solide métier, ça, alors, hein, ça a été épatant, puis c'était deux théâtres merveilleux, le théâtre de la Gaîté Lyrique et le théâtre du Châtelet, l'idée d'entrer, de glisser, de faire des petites blagues, de suspendre au rideau, d'arriver ski au pied, enfin descendre des escaliers à ski. Bon, je m'en suis vraiment donné à cœur joie, mais ça m'a marqué un an et après on m'a demandé des nouvelles de mon violoncelle. Alors ça m'a fait plaisir et c'est donc ce que je continue à faire.
Presque au terme de cette émission, écoutons Jean Belot, journaliste à Télérama, nous parler de Maurice Baquet.
Depuis 30 ans et plus, je voyais de loin en loin des photos de Maurice Baquet faisant de l'alpinisme, jouant du violoncelle, faisant de l'alpinisme en jouant du violoncelle. Et puis aux dernières nouvelles, il parcourait la province avec une vache et il dialoguait avec une vache. Et alors il est obligé de changer de vache parce que sa vache était grosse. Donc il va changer de vache, je crois, pour la moitié du temps.
Septembre, il en
et puis je suis allé le voir, hein, aux Îles Grands, et je suis tombé sur un comédien, musicien, alpiniste, que sais-je, qui a une vie d'une richesse, d'une diversité, et qui est un peu... Il me fait penser à Vanel, le Vanel d'il y a 20 ans, qui est vraiment une mémoire ambulante du spectacle français. Mais spectacle, c'est restrictif, parce qu'il a fait partie de l'équipe de France de ski pour les Jeux Olympiques de 36 ou 34, je ne sais pas. Et il a été partout. Et il y a deux choses qui m'ont séduit de chez lui, c'est indépendamment de la richesse de sa vie, C'est une aptitude phénoménale au bonheur. Et ensuite, une curiosité, des amitiés partout. Parce que de Rostropovitch à Luis Mariano, c'est pas ordinaire. De Rebuffa à Duano, c'est surprenant. Et c'est une vie qui est pleine de surprises, qui est pleine de... Et c'est la richesse de cette vie, je pense, qui m'a ébloui, vraiment.
Jacques Prévert, de Doineau, de Picasso, de Gaston Rebuffa, de Jam Coutet, d'Émile Allais, enfin, voilà. Est-ce que je leur ai apporté quelque chose équivalent à ce qu'ils m'ont apporté? Voilà.
Voici donc terminée l'ascension du violoncelle de Maurice Baquet par la face nord. Merci à lui pour la qualité de son accueil et sa jeunesse. Merci aussi au groupe vocal constitué par ses enfants et en particulier par Anne Baquet.
Ah, c'est beau. C'est de moi.
Encore un merci pour l'octuor de violoncelle dirigé par Pierre Bernaert, enregistré par Sandrine Bréchaud au château de Ménières dans le cadre des rencontres en Pays de Bray organisées par Claude Le Bihan avec la participation de Jean Belot. Équipe de réalisation, Simone Rangier, Hélène Daude, David Gis.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 23 décembre 1995.